Sixième jour, tierce. Ou Atso, en écoutant le dies irae, a un rêve ou une vision comme on voudra.
Guillaume salua Nicolas et monta au scriptorium. J'avais suffisamment contemplé le trésor, et je décidai de me rendre à l'église afin de prier pour l'âme de Malachi. Je n'avais jamais aimé cet homme, qui me faisait peur, et je ne cache pas qu'à la longue je l'avais cru coupable de tous les crimes. Or, j'avais appris que ce n'était sans doute qu'un pauvre homme, angoissé par des passions insatisfaites, vase de terre au milieu de vase de fer, assombri parce que fourvoyé, silencieux et fuyant parce que conscient de n'avoir rien à dire. J'éprouvais un certain remords à son endroit, et je pensais que prier pour sa destinée surnaturelle pourrait apaiser mon sentiment de faute. L'église était maintenant éclairée par une lueur pâle et livide, dominée par la dépouille du malheureux, habité par le murmure monotone des moines qui récitaient l'office des morts. Au monastère de Melk, j'avais assisté plusieurs fois au trépas d'un frère. C'était une circonstance que je ne puis qualifier de gaie, mais qui m'apparaissait cependant sereine, réglée par le calme et par un sentiment diffus de justice. Chacun se relayait dans la cellule du moribond, le réconfortant avec de bonnes paroles, et chacun songeait au fond de lui-même à la grande félicité du mourant, qui était sur le point de couronner sa vie vertueuse et ne tarderait guère à s'unir au cœur des anges, dans le bonheur éternel. Et partie de cette égalité d'âme, la fragrance de cette sainte aspiration se communiquait à l'agonisant, qui à la fin trépassait dans la sérénité. Comme elles avaient été différentes, les morts de ces derniers jours. J'avais finalement vu de près comment mourait une victime des diaboliques scorpions du Finis Africae, et Vénantius et Béranger étaient certainement morts de même, cherchant réconfort dans l'eau, le visage déjà s'abîmant comme celui de Malachi. Je pris place au fond de l'église. Me recroquevillé sur moi-même pour lutter contre le froid, je sentis un peu de chaleur. Remuai les lèvres pour m'unir au cœur de mes frères Oran. Je les suivais sans presque me rendre compte de ce que disaient mes lèvres. Ma tête dodelinait et mes yeux se fermaient. Un long temps passa, je crois m'être endormi et réveillé au moins 3 ou 4 fois. Puis le chœur entonna le dies irae, la psalmodie s'empara de moi comme un narcotique. Je m'endormis tout à fait. Ou peut-être plus que m'assoupir, je tombai épuisé dans une torpeur agitée repliée sur moi-même, comme une créature enclose encore dans le ventre de sa mère. Et dans ce brouillard de l'âme, me retrouvant comme dans une région qui n'était pas de ce monde, j'eus une vision, ou un rêve, c'est selon. Je pénétrai dans un escalier étroit, dans un boyau souterrain, comme si j'entrais dans la crypte du trésor. Mais je parvenais, toujours en descendant, à une crypte plus vaste qui était les cuisines de l'édifice. Il s'agissait certainement des cuisines, mais nantis outre que de fours et de marmites, de soufflets aussi et de marteaux, comme si c'était aussi un lieu de réunion pour les forgerons de Nicolas. C'était une rutilance d'éclairs rouges, de poêles et de chaudrons, et de casseroles bouillantes qui lançaient de la fumée tandis qu'à la surface de leur liquide montaient de grosses bulles crépitantes qui s'ouvraient d'un coup dans une rumeur sourde et continue. Les cuisiniers agitaient bien haut leurs broches, alors que les novices, s'étant tous donné rendez-vous ici, bondissaient pour capturer les poulets et autres gibiers à plumes enfilés sur ces fers chauffés au rouge. Mais à côté, les forgerons martelaient avec une telle force que tout l'air en était assourdi, et des nuées d'étincelles s'élevaient des enclumes en se confondant avec celles que les deux fours vomissaient. Je ne comprenais pas si je me trouvais en enfer ou dans un paradis tel qu'aurait pu le concevoir Salvator, ruisselant de jus et palpitant d'andouillettes. Mais je n'eus pas le temps de me demander où j'étais. Parce qu'une troupe d'avortons, de nabots aux grosses têtes, en forme de braisière, entra en courant et, m'emportant dans son élan, me poussa sur le seuil du réfectoire, me contraignit à entrer. La salle était parée comme pour une fête. De grandes tapisseries pendaient au mur. Mais les images qui les ornaient n'étaient pas de celles qui d'habitude font appel à la piété des fidèles ou célèbrent les gloires des rois. Elles me semblaient plutôt s'inspirer des marginalia d'Adelme, et d'entre ces figures, elles reproduisaient les moins effrayantes et les plus bouffonnes. Des lièvres qui dansaient autour d'un mât de cocagne, des rivières sillonnées de poissons qui se jetaient spontanément dans la poêle, tendues par des singes vêtus en évêques cuisiniers, monstres au ventre gras qui dansaient autour de marmites fumantes. Au centre de la table se tenait l'abbé, avec ses habits de fête, une grande robe de pourpre brodée, empoignant sa fourchette comme un sceptre. À côté de lui, Jorge s'abreuvait à un grand pichet de vin et le céleri habillé comme Bernard Guy lisait vertueusement dans un livre en forme de scorpion la vie des saints et des passages de l'Évangile, mais c'étaient des histoires qui racontaient que Jésus plaisantait avec l'apôtre en lui rappelant qu'il était une pierre et que sur cette pierre éhontée qui roulait à travers la plaine, il fondrait son église. Ou l'histoire de saint Jérôme qui commentait la Bible en disant que Dieu voulait dénuder le derrière de Jérusalem. Et à chaque phrase du célérier, Jorge riait en donnant du poing sur la table et s'écriait « Tu seras le prochain abbé, ventre Dieu !» C'est précisément son expression que Dieu me pardonne. Un signe badin de l'abbé, la théorie des vierges fit son entrée. C'était un resplendissant défilé de femmes richement vêtues, au milieu desquelles j'eus tout d'abord l'impression de distinguer ma mère. Puis je me rendis compte de ma bévue car il s'agissait sûrement de la jeune fille redoutable comme des bataillons. Sauf qu'elle portait sur la tête une couronne de perles blanches, sur deux rangs, et deux autres cascades de perles descendaient de chaque côté de son visage, s'entremêlant à deux autres rangs de perles en sautoir, et à chaque perle était accroché un diamant gros comme une prune. En outre, de ses oreilles coulait un rang de perles bleues qui se rejoignait en gorgerette à la base de son col, blanc et droit comme une tour du Liban. Son manteau était couleur droite épine et elle tenait à la main une coupe d'or constellée de diamants dans laquelle je sus, je ne sais comme, qu'on renfermait longuement l'étal dérobé un jour à Séverin. Suivaient cette femme, belle comme l'aurore, d'autres figures féminines, l'une vêtue d'un manteau blanc brodé sur une robe sombre, ornée d'une double étole d'or festonnée de fleurs des champs. La seconde avait un manteau de damas jaune et une robe rose pâle parsemée de feuilles vertes et où se dessinaient deux grands carrés filés en forme de labyrinthe brun. Et la troisième avait le manteau rouge et la robe émeraude brochée de petits animaux rouges et elle tenait dans ses mains une étole blanche brodée. Quant aux autres, je n'observais pas leur vêture car je cherchais à comprendre quelle était celle qui accompagnait la jeune fille si ressemblante maintenant à la Vierge Marie. Et comme si chacune exhibait à la main ou expulsait de sa bouche un cartouche, je sus qu'elles étaient Ruth, Sarah, Suzanne et d'autres femmes des Écritures. À ce moment-là, l'abbé cria « Entrez donc, fils de pute !» Et dans le réfectoire entra une autre troupe bien ordonnée de saints personnages, que je reconnus aussitôt, austèrement et splendidement habillés. Et au centre de la troupe se trouvait un trônant qui était notre Seigneur, mais dans le même temps Adam, vêtu d'un manteau de pourpre qu'un grand diadème rouge et blanc de rubis et de perles d'Orient fixait aux épaules, coiffé d'une couronne semblable à celle de la jeune fille, avec dans ses mains une coupe plus large, pleine du sang des porcs. D'autres personnages très saints dont je parlerai, tous fort connus de moi, faisaient cercle autour de lui. Outre une bande d'archers du roi de France, vêtus les uns en vert, les autres en rouge, avec un écu smaragdin sur lequel tranchait le monogramme de Christ. Le chef de cette brigade s'avança pour rendre hommage à l'abbé et lui présenta la coupe tout en disant « Saou, avec caisse teres, pour caisse fins, qui contient 30 ans les possédés par Sancti Benedicti. » À quoi l'abbé répondit « Age primum et septimum de quatuor » et tous entonnèrent « In finibus Africae, Amen ». Ensuite, tous céderunt.